écoutez Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. La Ferrarock poursuit ses recommandations des prochains festivals où foulez vos meilleurs pas de danse et ce sera en terre bretonne cette semaine avec le festival Chaussetong. C'est Marcus de Radioactive à Saint-Brieuc qui reçoit une flopée des membres de l'association qui l'organise pour mieux vous le présenter en fin d'émission. A Journey That Never Was, le deuxième disque en solitaire pour le multi-instrumentiste Arthur Satan. Mais il n'en est pas moins généreux avec ses 17 morceaux qui composent ce double album. C'est une des découvertes de la semaine aux côtés du 7e opus de Miss France, nommé sans détour par le chiffre 7, à l'image de leur musique, sans manière, mais qui frappe de plein fouet pour déverser leur esprit punk. Écoute et interview par Cédric de Fréquence Mutine à Brest.
Nous sommes donc en compagnie de Martin de Miss France pour le réseau Ferrarock pour parler d'un tout nouvel EP qui vient tout juste de sortir. Salut.
Salut Cédric, merci pour l'invitation.
Ben non, ça fait plaisir. Alors c'est le 7e EP qui porte bien le nom 7 dans la tradition, ce que vous défendez. Absolument. Vous depuis le début. Ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans hein, que si on devait remonter au premier EP.
Ouais, 10 ans tout pile, cette année en 2025, ça fait 10 ans qu'on répète. Notre premier concert c'était en 2016, donc joyeux anniversaire Miss France.
Joyeux anniversaire, elle a pas... Et ça va, elle a pas trop pris de ride hein.
Non, de toute façon le physique ça compte pas, on s'en fout.
Exactement, je suis d'accord. Alors il y a un truc qui est assez fort chez vous, de vous parler de choses un petit peu générales avant d'aborder peut-être plus en profondeur ce dernier disque, c'est de chercher non pas à se renouveler mais tu vois apporter des petites choses, à se tester, à varier les supports, alors tant ouais. Sur la forme que sur le fond, j'ai envie de dire là pour le coup ben on a notamment un super objet hein, qui est une sorte un vinyle gravé d'une seule face je crois, qui a un petit côté oui. Lenticulaire finalement quand on va le tourner. Alors je voulais savoir un petit peu si justement cette volonté d'être vraiment créatif et finalement de pas rester tu vois dans une rengaine, ça faisait vraiment partie de l'ADN du groupe.
C'est intéressant d'avoir un groupe de musique, mais c'est aussi intéressant d'exprimer via plusieurs médias différents, donc que ça soit la vidéo, en effet le support, le disque, le merchandising, ce genre de choses. C'est cool d'être conceptuel, d'essayer de sortir un petit peu du lot. Nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi un peu bousculer les codes, donc et le punk est quand même assez codé, donc c'est très intéressant de pouvoir à la fois s'exprimer avec plein de médias et en plus essayer d'être original, conceptuel et modestement artistique quoi.
Ce qui fonctionne bien, c'est qu'il y a une collab artistique et graphique avec ton frère hein, qui se colle un petit peu sur tous les designs. Tu peux nous en parler un petit peu de cette collaboration qui date depuis le tout début. Finalement, il fait quasiment partie du groupe.
On le dit tout le temps, on le dit depuis le début, c'est le 5e membre du groupe quoi. C'est que en fait moi si je suis arrivé au punk, c'est un peu grâce à lui puisque c'est mon grand frère. Donc j'écoutais un peu la musique qu'il écoutait. Comme tous les gens, je pense, en tout cas 90% des gens qui ont des grands frères ou des grandes sœurs, je suis arrivé dans cette musique-là grâce à lui. Il faisait un peu de guitare, sans prétention. Et je crois qu'il a toujours voulu un peu avoir un groupe de musique. Et moi, en fait, qui ne joue aucun instrument, un jour, je me suis motivé, j'ai regroupé des gars qui étaient musiciens. Et on a fabriqué Miss France comme ça. C'était aussi sa volonté de faire partie du groupe sans être musicien, en fait. C'est lui le graphiste du groupe et tout ce qui est visuel. C'est lui qui s'en occupe. C'est très important pour nous. Déjà parce que ça fabrique une patte, un truc assez reconnaissable, une signature. Et ensuite parce que mon frère, je le trouve talentueux et conceptuel. Et donc nous on est fan de son travail, donc tout le monde s'y retrouve et c'est super.
Tu parlais de vidéo, il est aussi derrière le processus créatif en termes de vidéo?
Non, les vidéos c'est moi qui les réalise, tout simplement parce que j'adore ça. J'ai fait une école de cinéma et j'ai bossé un petit peu dans l'audiovisuel. Je pense être un réalisateur un peu frustré, donc je m'exprime avec Miss France. Comme ça on est notre propre client et on est sûr qu'on va se faire valider nos vidéos quoi. Toutes les chansons de Miss France depuis le début, donc depuis 10 ans, ont été clippées. Ce délire qui est un peu music business, qui dit il faut clipper 3 chansons qui sont des singles de l'album en entier. Moi je le comprends pas tout à fait, donc autant s'exprimer à fond, à 100%, et puis on clip tout quoi, comme ça c'est amusant, chaque chanson à son illustration vidéo et c'est cool quoi. Full DIY et ça c'est chouette. Ça revient un peu sur ce que je disais qu'on est nos propres clients donc c'est toujours validé quoi. Nous on est animé par un truc qui est s'exprimer quoi en fait, que ça soit via la musique gueulée dans un micro ou via les vidéos. Je pense qu'au fond de nous, on a trop envie d'être autre chose qu'un groupe lambda punk avec des photos promo où les mecs sont des tough guys et ils font la gueule dans un endroit tagué. Enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, mais c'est quoi de la musique avec un grand M, on va dire. Ça nous emmerde profondément. Donc, en fait, nous, on a juste envie de s'exprimer comme on le veut. Comme on n'a pas de label, on fait ce qu'on veut aussi. On n'a pas de manager non plus, donc on décide d'à peu près tout. Et c'est génial comme ça, on s'y retrouve à fond. Et je crois que c'est le plus important, en fait. C'est un peu l'esprit punk aussi, de pouvoir se sentir libre comme ça, je crois.
Dernier clip qui est sorti là au jour d'aujourd'hui, qui est bien le titre au jour d'aujourd'hui, mais il n'est pas sorti aujourd'hui, enfin, je me comprends. Hein. Est-ce que dans ce clip, vous dévoilez pas un petit peu une sorte de processus d'écriture ?
Tu mets le doigt sur un truc parce que cette EP là, c'est l'une des premières fois où je me suis laissé la possibilité de faire comme un peu de l'écriture automatique, c'est-à-dire genre plus des idées avec un sens et du concept que véritablement raconter une histoire. J'ai essayé de projeter des bouts de phrases, des figures de style, oui, des tentatives, on va dire. Je me suis fait valider les paroles par le reste du groupe, donc c'est parfait. Mais en effet, je suis allé tester une nouvelle façon d'écrire. Et j'en suis content, je trouve que ça marche plutôt bien. En effet, le début de la chanson, c'est vraiment trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule. Et le reste de la chanson, c'était plus des idées balancées comme ça. Fier de vous, une autre chanson de l'EP, et un peu fabriquée de la même façon. C'est vraiment des idées balancées sur un bout de feuille, quoi.
Voilà, donc trois clips à ce jour cette EP pour l'instant, sachant qu'il y a six titres, donc il y aura six clips. Alors juste toujours par rapport rapport à au jour d'aujourd'hui, donc une de ses dernières phrases assez assez imparable évidemment que j'ai retenu moi, c'est on n'a pas commencé pour abandonner. Est-ce que pour toi ou pour vous quelque part une manière peut-être de rappeler pourquoi vous avez eu besoin de monter ce groupe?
Concernant en fait plutôt les combats politiques et notre place dans la société d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, je l'ai plutôt vu comme ça. C'est-à-dire que on n'a pas commencé un combat pour l'abandonner. Par exemple, je pense à la dissolution de Macron. On vote tous pour la gauche et finalement, il faut un premier ministre de droite. Donc, du coup, on va manifester et il nous écoute pas en fait. À un moment, quand tu vas voter, qu'on n'écoute pas ton vote, que ensuite tu vas manifester, que en fait les politiques s'en battent la race. À un moment, en fait, tu peux avoir les bras qui tombent et te dire genre ok, il y a plus d'espoir, j'en ai marre, on ne me prend plus en considération et ça me saoule quoi. Et ben moi, ce que j'ai plutôt voulu dire par cette phrase, on n'a pas commencé pour abandonner, c'est plutôt allez haut les cœurs, un peu d'espoir, on continue le combat et c'est ce qui nous fait vivre, avancer, donner de l'espoir et Inch'Allah un jour ça ira mieux quoi.
Quelque part, c'est plutôt ça. Presque un message ouais très positif, mais peut-être voire même pour les plus jeunes et qui peuvent vous découvrir finalement, qui connaissaient pas le groupe il y a 5 ans encore, 6 ans, qui vont vous voir en concert maintenant, découvrir le disque, voilà, c'est ouais, de continuer le combat quoi.
Je le souhaite, en tout cas je le souhaite du plus profond de mon cœur. Et quand tu parles de la nouvelle génération, on a constaté un truc très intéressant là. Je sais pas si tu sais, mais il y a une salle de concert à Paris qui s'appelle l'International qui vient de fermer.
Oui, tout à fait.
Qui a fermé le week-end dernier. Et donc nous, on était invités avec grand honneur à jouer là-bas et à fermer, donc à clôturer la salle de concert. Donc c'était un peu la fête et en même temps, au fond, c'était un peu triste parce qu'il y a encore une salle qui ferme. Et ben, on a été très 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 étonnés par le nombre de jeunes qu'il y avait dans la salle, quoi. Ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur de se dire que bah punk is not dead et puis qu'il y a encore des groupes et des gens qui viennent supporter ça en salle. Et ça, c'est super, quoi.
Bon, c'est aussi quelque part une musique qui, pas de l'opposition, je veux dire ça, mais finalement, je pense que les jeunes vont forcément y revenir et s'y retrouver.
J'espère, ouais, j'espère vraiment parce que comme c'est une musique qui est violente, qui est très amplifiée et saturée, c'est évident que quand t'as un micro devant toi que tu cries, tu vas pas crier un truc niais, quoi. Enfin, c'est important de crier, utiliser tout cet effort-là, y mettre beaucoup de soi, en fait, de sa chair et tout, pour qu'il y ait un peu un combat, en tout cas des idées. Et, oui, c'est important, en fait, je crois, de crier au combien c'est dégueulasse et qu'on aimerait que les choses changent dans le bon sens.
Alors, Miss France, ça crie fort depuis le début, ça crie toujours très très fort, mais ça crie de façon un peu plus longue sur certains titres. Hein. On a des morceaux qui prennent un peu plus de temps, mais est-ce que c'est pas encore donner plus de force aux propos?
Bah, peut-être. Ça, chacun y met l'émotion qu'il le veut. Nous, encore une fois, c'était plutôt pour aller explorer des endroits où on n'était jamais allé, quoi. Donc, en effet, il y a du synthé, il y a des nappes, il y a des trucs assez répétitifs, un peu même du domaine de la trance. Avec par exemple bah, encore une fois Fier de vous où pendant une minute trente le jeu baisse, la voix est assez monotone, elle répète Fier de vous avoir pour ennemi, donc il y a un côté un peu transe. Puis après le truc remonte et là c'est explosif. Donc je pense qu'en effet c'est peut-être une sorte de recette pour fabriquer un truc presque techno, j'ai envie de te dire, tu vois, genre cyclique comme ça et explosif sur la fin, quoi. Ouais, il y a un côté un peu techno, je pense.
Ouais, et faire que ça reste dans la tête. Et
puis dans la techno, si en fait on trace une ligne pour représenter ce que pourrait être la musique techno, c'est vraiment un truc genre boum boum au début, puis après des montées, une descente, un drop ou des trucs comme ça. Et j'ose croire que Fier de vous ou peut-être même De plein fouet sont des musiques qui ont été fabriquées un peu avec ce schéma-là, je crois.
Tu parlais de l'ajout de synthé sur certains passages qui ont été, je crois, faits par le gars qui a fait la prod du EP.
Ouais, tout à fait, Henri Darmancourt. Aidé quand même de Antoine Pépin, qui est le guitariste de Miss France depuis 2 ou 3 ans maintenant. Et c'est la première fois qu'il enregistre un EP avec nous, enfin avec le groupe dont il fait partie maintenant, mais à part entière. Mais c'est son premier EP à lui. Il a voulu aller explorer des trucs avec nous, nous accompagner vers des endroits qu'on connaissait pas du tout. Ça, c'était très intéressant. Henri nous a aussi poussé vachement dans ce sens-là. Il voulait un truc rock, mais aussi, j'irais pas jusqu'à dire expérimental, mais aller voir des horizons qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir, quoi. Je pense que Antoine, comme Henri, nous ont apporté une vraie fraîcheur, en tout cas, dans le groupe. Nos 6 premiers EP sont très bien, hein. Mais je pense qu'on était vraiment dans un truc très punk. Aujourd'hui, on est pas post-punk, mais en tout cas, on est dans une sorte d'évolution Pokémon du punk.
Alors on le disait, ce septième EP qui est sorti en numérique et en vinyle, vous voulez savoir le fait d'être complètement autoproduit, de pas être distribué, hein, tu me corriges si je me trompe, de pas avoir de label, c'est-à-dire que vous gérez tout de A à Z, c'est-à-dire la partie production, la partie vendre les scuds, organiser les concerts, machin, monter les tournées, même s'il y a les bookers qui sont là pour vous aider, évidemment, on fait un gros coucou notamment à Yves. Comment vous organisiez, vous, en interne, pour gérer tout ça? Genre par exemple, bah, je sais pas, qui c'est qui gère les ventes, qui c'est qui gère le Bandcamp?
Très inconsciemment, les choses se sont faites un peu toutes seules. C'est-à-dire que c'est Jérémy qui, par exemple, s'occupe des réseaux sociaux, de la communication. Antoine, lui, gère plutôt le tour management, se mettre en contact avec les salles d'un point de vue technique et fabriquer un peu un routing, on va dire. Jérôme, déjà, c'est tout le temps lui qui conduit le camion. C'est son camion, c'est son van. Il est très organisé, il range les instruments. Il s'occupe aussi pas mal du tour management avec Antoine. Et moi, j'aurais envie de te dire que je fais la compta. Et je m'occupe du merch aussi. Donc en fait, très inconsciemment, les choses se sont faites toutes seules. Je pense qu'on va un peu vers aussi ce qu'on aime, quoi. Puis comme Miss France, c'est notre bébé, ben on s'en occupe jusqu'au bout, quoi.
Et donc, qu'est-ce qui fait que bah là, tiens, on va sortir un disque? C'est parce que ben les morceaux sont prêts, c'est le moment, ou c'est parce que ça y est, on a la thune pour, parce qu'on a vendu assez, on y va, quoi? Ou c'est,
non,
y a pas de règles?
Ouais, y a pas tout à fait de règles, mais on réfléchit surtout pas en termes d'argent, quoi. Des fois, on met de notre poche et pour avancer un peu des frais, et après on récupère au fur et à mesure quand on va défendre le disque en tournée. Je pense qu'on a le sentiment d'avoir suffisamment de chansons pour fabriquer un objet. Et puis, ça nous manque, en fait. À un moment, on sortait des EP quasiment tous les ans, au tout début. Bon, maintenant, depuis le Covid, ça s'est un peu ralenti. Puis, beaucoup d'entre nous sont papas, maintenant. Donc, c'est pareil, ça ralentit un peu le rythme. Je pense qu'on se dit, genre, à un moment, quand on a 4, 5, 6, 7, 8 chansons, bon, ben, peut-être qu'il serait temps de fabriquer un objet physique, cassette, CD ou vinyle. Enfin, je dis ça, on n'a jamais fait de CD, mais... Parce qu'on le sent, je crois, et puis nous, en fait, il y a deux choses. C'est que, moi, je trouve qu'un disque, un album vraiment entier de punk, avec 12, 15 chansons... À un moment, ça devient un peu indigeste, quoi. Donc, je crois qu'on aime bien le format EP, et puis qu'on aime bien aussi, genre, sortir des choses assez de manière fréquente, quoi, pour toujours un peu avoir une sorte d'actu et rejouer, quoi. En fait, il y a rien de mieux que jouer en concert, c'est évident. Je crois qu'un groupe de musique, c'est par essence du concert. Donc, du coup, le disque, c'est plutôt un prétexte pour aller défendre le disque en concert. Ouais, il y a pas tout à fait de règle, ça sort quand ça sort, quoi.
Ça représente combien de dates à peu près par an Miss France en concert?
Bon, je dirais 20 ou 30, un truc comme ça.
C'est un rythme qui vous va bien, que vous aimeriez plus important?
Non, encore une fois, je te dis, on a tous un taf à côté.
Ouais, c'est pour ça.
Maintenant, les garçons sont... En fait, tout le monde est papa, sauf moi. Donc, c'est pareil, ils ont un rôle important maintenant à tenir, qui est celui de père de famille. Et c'est important de rester à la maison. Et nous, ça nous va comme ça, tu vois. De toute façon, le plus important, c'est que Yves... notre booker soit au courant de ça et qu'il n'attende pas après nous pour pouvoir payer son loyer à la fin du mois, parce que ce serait chaud pour lui sinon. Nous, on est contents avec ce rythme-là, en tout cas.
Vous êtes comme assez proche, hein, de cette scène française qui, je trouve, est ultra dynamique depuis quelques années. J'imagine que ben vous écoutez pas mal de trucs aussi. Est-ce que, par exemple, pour toi, selon toi, c'est quoi les prochains groupes à suivre, là, si on est auditrice, auditeur de l'affaire rock, comme quand on aime le punk, qu'est-ce qu'on doit aller écouter?
Il y a quelques semaines, il y a deux semaines, trois semaines, je suis allé voir Lulu en concert. C'est du punk rock, c'est super cool. C'est extrêmement frais. C'est bonne ambiance, et il y a les meufs de Irnini Mons dedans, et puis c'est un groupe, il me semble, lyonnais/marseillais. Et puis ensuite, j'ai envie de te dire, nos potes de Paris, Ligne Rouge, qui font un emo punk super, vraiment excellent. Une usine à single, les mecs, et Mywen. Après, y a toute la crème de la crème des filles qui font du punk à Paris. Tous les gens qui sortent des ateliers Salut les Iquettes, je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est un atelier pour les meufs qui n'ont pas forcément l'opportunité de jouer ou de faire de la musique. Donc c'est exclusivement des meufs, hein. Il y a pas de garçons là-bas. Et ce sont des ateliers qui fabriquent des groupes de musique, en fait. Tout ce qui en sort sont des pépites, quoi.
Donc c'est à suivre, c'est ultra créatif. Eh ben merci beaucoup, hein, merci beaucoup pour tout ça. On rappelle que le 7e EP de Miss France est sorti le 11 avril dernier, que vous pouvez aller vous jeter sur notamment le Bandcamp pour acheter le vinyle si vous êtes friand de ce genre d'objet, et puis suivre aussi sur les réseaux pour avoir toutes les dates qui vont venir derrière, pour donc venir voir Miss France en concert. Merci beaucoup. À
tout
bientôt.
Merci à toi. À bientôt et bonne écoute.
Salut.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Dig Dig Diggers des radios de la Ferrarock. La fin du groupe JC Satan a annoncé les débuts en solo de son fondateur, Arthur Satan, en 2021 avec le disque So Far So Good. Le Bordelais lui donne une suite, A Journey That Never Was, que l'on découvre tout de suite aux côtés de Jordan de Radio Méga.
C'était The Killer de Arthur Satan, extrait de son deuxième et nouvel album, A Journey That Never Was, qui vient de sortir sur l'indispensable label français Born Bad Records. Voici 4 ans que celui que l'on connaissait pour sa verve rock'n'roll bien garage et sauvage dans JC Satan nous étonnait tous et toutes avec So Far So Good, un premier album solo qui explorait la pop 60s avec la délicatesse et la millimétrique des génies. Arthur Satan revient en ce printemps 2025 avec un deuxième album qui creuse un peu plus les sillons qu'il avait tracés voici quelques années. Pour parler de ce nouvel album, Journey That Never Was, que soutient la Ferrarock cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Arthur. Salut à toi Arthur et merci de m'accorder cette interview.
Salut, avec plaisir.
Alors pour commencer, je te propose, si tu le veux bien, de parler du morceau qu'on vient d'écouter. J'aime bien demander à mes invités qu'ils prennent un temps pour nous parler du titre d'ouverture. Donc on a écouté The Killer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce morceau ?
C'est un peu un morceau qui commence vraiment le disque. Tu as l'intro avec The Death of a King, qui s'enchaîne un peu avec celui-là. Je voulais que ça soit un peu une double intro. Tu as le premier morceau qui est très baroque, qui met un peu les pieds dans le plat en disant bon, je vais en faire des caisses. Et celui-là, c'est un peu le morceau cliché rock, 60s, un peu garage, le riff de base. Je voulais absolument pas un truc très fin. Je voulais que ce soit vraiment l'archétype de ce genre de morceau qu'on écrivait beaucoup avant, basé sur un gros riff que tout le monde a entendu un peu d'une certaine manière, mais avec quand même une chouette énergie, avec des chœurs aussi un peu dessus, des voix très harmonisées, donc toujours un peu travaillé. Mais c'était un peu le truc de se débarrasser un peu de ces évidences-là, et ensuite, hop, je me lance dans ma pop et de dire, voilà, ça c'était la base, ça fait partie de tout ce monde de sixties, de la pop et de ses influences. Donc je voulais commencer par un peu le cliché, quoi, vraiment.
Alors, ce deuxième album solo, tu l'as une fois de plus enregistré tout seul dans ta chambre. Tu l'as également mixé, tu as réalisé la pochette, dont on parlera plus en détail plus tard dans l'interview. Et cet album, il comporte 17 titres. Alors, ce ne sont pas du tout 17 titres expédiés à la va-vite comme pourrait le faire un groupe de punk. Ce sont des titres parfois très longs. Pourquoi est-ce que tu as choisi de finalement ne faire qu'un seul et même album en 4 ans? Tu aurais pu en sortir deux en vrai?
Bah après, moi, je suis pas trop dans le truc de sortir constamment des disques, en fait. J'aime bien passer du temps dessus. Ça reste des petits objets importants et tout ça. Et là, en l'occurrence, comme j'étais en tournée avec Philippe de Coufflet pendant 3 ans, j'étais un peu bloqué, quoi, niveau écriture. Je pouvais pas vraiment coucher tout ça, quoi, dans l'ordi, enfin, sur les bandes, entre guillemets. Et du coup, j'ai écrit énormément de trucs que j'ai gardés dans la tête. Là, en vrai dire, il y a 17 morceaux, mais j'en ai écrit pas loin d'une quarantaine.
Je m'en doutais en vrai.
Ouais, non, mais j'avais maquetté pas mal de morceaux, énormément que j'ai gardé vraiment dans la tête jusqu'à que ça soit prêt à éclater, quoi. Du coup, en fait, quand on est parti enregistrer, parce que du coup, là, j'ai pas enregistré dans ma chambre le son. Moi, je trouve assez cool le disque parce que. On est allé en studio dans les Landes, le studio de David de Cheveux. Alors, en fait, il nous a prêté le studio. Moi, c'était vraiment pour les pièces. J'ai amené tout mon matos à moi là-bas. Je n'ai pas utilisé le matos du studio. Donc, j'ai enregistré avec le même matos que d'habitude, tous les trucs. Et on est parti avec Romain, qui donc joue la batterie sur les disques et tout ça. Donc là, tout est vrai, alors que dans le premier, je faisais des fausses batteries vu que j'étais enfermé dans ma chambre. Donc ça, c'est important. Nous, on est allé en septembre. Il faisait encore méga beau. Tout le terrain est collé à la forêt, tu peux partir après à pied, te baigner dans une petite rivière derrière, c'est vraiment genre le rêve, quoi. Donc enfermé comme ça en pleine nature pendant un mois. Donc du coup, j'ai couché tous les morceaux que j'ai pu, quoi, en fait, dans le laps de temps que j'avais, quoi. J'ai fini l'enregistrement dans ma chambre, là j'ai fait toutes les batteries, en gros, les guitares électriques, et ensuite tout le reste, les arrangements, les voix, j'ai tout fait à Bordeaux. Donc il en est resté 17 morceaux que je me voyais pas enlever, en fait. Et après, ça fait longtemps que je voulais faire un double album. Dans ma tête, c'est un truc qui compte parce que j'adore ces disques un peu fin 60, début 70, qui commencent à être des disques fleuves. C'est encore un peu le 60s, un peu classique, où en général, on sortait des 45 tours, des morceaux courts, des formats très pop. Et début 70, on commence à aller vers des formats plus longs, on travaille moins sur les singles et plus sur les albums entiers, quoi, vraiment.
On prend le
Et
temps d'installer des ambiances, de raconter des
ouais.
histoires, quoi.
Avec notamment parfois des morceaux qui s'enchaînent, qui se suivent, des trucs qui deviennent de plus en plus un peu plus piqués, peut-être des fois, mais aussi la construction du disque, quoi, qui est fait pour être écouté ensemble et pas juste séparer tous les morceaux les uns des autres.
Mais d'ailleurs, c'était très dur hein, de choisir deux morceaux. Alors j'en ai pris deux, voilà, parce que bah, en les écoutant, je les ai beaucoup aimés, ils m'ont touché, mais à la fois, effectivement, c'est une histoire. Et c'est aussi plein d'histoires, puisqu'on entend bien que chaque titre raconte quelque chose, raconte un voyage, peut-être celui qui a jamais eu lieu, comme le suggère le titre. Le communiqué de presse, il parle de tes amis imaginaires qui peuplent ce disque, dans lequel tu arrives quand même à mêler un univers médiéval fantastique et la pop 60s, c'est singulier. Est-ce que tu peux nous raconter bah justement comment ils viennent, ces morceaux, comment tu les organises? Est-ce qu'ils viennent comme ça un peu
Ça dépend un peu des disques que je vais faire. Là, je suis en train d'écrire un truc, par exemple, qui sera une sorte de fausse bande son de film. Là, par exemple, je travaille en réfléchissant avant, pendant l'écriture, à comment des choses vont s'enchaîner et tout ça. Là, c'est plus un disque un peu hommage dans le genre, sorte de compilation, quoi, 60s. Donc, l'idée, c'était de surtout me donner aucune contrainte. Tout ce que j'avais dans la tête, chaque petite mélodie, tube un peu pop que je m'imaginais, je l'enregistre et le lien se fait naturellement, quoi. Parfois, un morceau que j'aurais fini va m'amener l'idée d'un autre parce que je me dis, ok, ça serait bien que ça s'enchaîne avec quelque chose. Et à côté, il y en a aussi qui sont arrivés tout seuls, tels qu'ils sont, et que j'ai placé après dans le disque, quoi. Et l'idée aussi, c'est que moi j'aime bien, enfin tu vois, la pochette, je la travaille, j'essaie de faire une putain d'illustration, et en
Ouais, bah
fait.
ça, on va en parler parce que c'est un objet à part entière, en fait, en plus de la
Ouais,
musique, quoi.
ça c'est ce que je voulais. Mais justement, en
Ouais.
fait, c'est que je voulais vraiment donner de la force à l'objet, au disque en lui-même. Et le truc que j'aime bien, c'est que les gens se font souvent un peu piéger, c'est un chouette piège, quoi. C'est que tu peux écrire un album qui te donne l'impression qu'il est dans la continuité, qu'il est pensé, parce que ta pochette, elle imprime une image très forte, en fait, par exemple, tu vois. Et en fait, j'aurais fait une autre pochette qui aurait rien à voir avec un truc fantasy. Ça aurait inspiré une autre idée aux gens, je pense. J'adore cette idée que, en fait, j'ai pris beaucoup de morceaux qui sont pas nécessairement des morceaux qui pourraient aller les uns avec les autres. Et je crois que l'ordre du morceau et cette pochette, elle crée aussi l'unité, quoi. Donc l'objet, pour moi, il est total. C'est hyper important, ça.
Ouais, ben on en parlera après. Là, on va faire une pause parce que on arrive déjà, on a bien entamé le temps de notre interview. On va écouter donc Crucify Me. Je sais que tu serais capable de te planter des clous dans les mains, hein, mais je te souhaite vraiment pas de le faire. Alors, raconte-nous ce délire qui a l'air un peu mystique quand même.
Non, c'est pas si mystique. Non. Moi, je me
Bon.
suis déjà agrafé beaucoup de choses sur le corps, par exemple,
Oui.
mais les clous, c'est encore un peu fort, quoi. Mais non, Crucify Me, c'est un morceau un peu con, un peu cliché, sur le rapport entre les stars du rock, toute l'imagerie qu'on a. C'est un peu comme Glamosaurus Rex aussi, où je me moque un peu de Mark Bolan et de ces héros incroyables qui étaient quand même aussi des gros dégueulasses. Des pires salauds, quoi. Mais la Crucify Me, c'est le rapport entre l'artiste qui se plaint des gens qui l'encensent et en même temps qui est bien content que ça arrive, quoi. C'est un peu ça. Et en même temps, dans l'autre sens, c'est aussi les gens qui l'encensent qui sont un peu cons d'encenser quelqu'un qui est absolument pas si incroyable, quoi.
Et il y en a un paquet. On
Ouais.
l'écoute tout de suite, ce morceau. Crucify Me, donc extrait de l'album A Journey That Never Was de Arthur Satan. C'était Crucify Me, extrait de l'album A Journey That Never Was de Arthur Satan que la Ferra Rock soutient cette semaine. Je suis toujours en compagnie de Arthur pour parler de ce nouveau disque. Donc je te propose Arthur de parler imagerie maintenant puisque comme on le disait avant de faire la pause musicale, tu as dessiné la pochette de A Journey That Never Was. Et comme pour ton album précédent aussi, on est dans un univers en noir et blanc qu'on pourrait situer entre Où est Charlie et Jérôme Bosch. Et ton illustration, elle est composée de centaines, voire peut-être de milliers de petites personnes, de détails. J'imagine que ça représente des heures de travail. Pour toi, c'est inimaginable de confier ça à quelqu'un d'autre. C'est vraiment une partie intégrante du projet. Et l'esthétique visuelle, là, comme tu l'as dit, ça accompagne ce disque, ce double album.
Ouais, bah moi je fais de l'illustration quoi, donc
Ben oui.
c'était obligé que je fasse ça. Et puis en plus c'est tout ce que j'ai dans la tête quoi. Faut que je le représente moi-même. Je vois pas qui pourrait le faire mieux sans doute, mais plus aussi personnel, aussi
Ouais.
je sais pas, aussi intense quoi. J'ai passé presque 180 heures quoi sur le dessin
Ouais, parce
et
qu'on pourrait se dire, bon, bah ok, il fait un petit personnage, après il le scanne et puis il le duplique. Non, en fait, tu fais tout.
Non, 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 moi j'ai besoin de
Ouais.
voir chaque trait, chaque truc. C'est vraiment, c'est de l'ordre de la névrose, là. Non, non, mais c'est hyper important. Puis moi je tiens tellement à l'objet du disque. Par exemple, le double album, c'est aussi parce que je voulais faire un gatefold, quoi, enfin. Et j'avais besoin de cette pochette panoramique énorme, j'avais besoin d'espace. Et je trouve que justifier un double album, souvent, c'est dur. Il y en a beaucoup qui sont longs. Il y a des gens qui gaspille des faces entre guillemets parce que quand on fait un double parfois on se dit qu'on peut se permettre de partir dans des trucs complètement psychés, des arrangements et là je voulais double album rempli de morceaux qu'on doit tous écouter quasiment. Il y en a un ou deux qui sont vraiment un peu des interludes, mais je trouve qu'ils peuvent tous être écoutés. Et pour justifier ça je voulais aussi avoir un objet qu'on peut regarder quoi. Donc un double album, je voulais avoir une pochette qui dure 1 heure, l'album dure 1h06. Je voulais avoir une pochette dans laquelle tu peux au moins passer 30 minutes à te perdre, quoi. Et c'est quand même vraiment important de valoriser un objet comme ça quand ça peut être aussi beau, quoi, qui s'ouvre en deux, qui est grand dans les mains. Donc voilà, quoi. Moi, le seul truc dont j'avais peur, c'était que ça coûte trop cher, du coup. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on a réussi avec JB à. Moi, j'ai réussi à faire un objet que je trouve vraiment beau. Je suis très vraiment content de la pochette, je trouve ça super classe. Et on a réussi à le contenir dans un prix correct. Normalement, si les magasins ne sont pas abusés, tu peux le choper à 25 balles. Et ça, je suis hyper content s'ils connaissent.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, la tournée c'est prévu pour le mois de septembre, c'est ça? Pas avant.
Ouais, on fait quelques dates un peu, mais on va commencer surtout à tourner en septembre. Il y aura la release party à la maroquinerie, donc en septembre. Et ensuite, les dates qui vont, j'espère, suivre un peu, quoi, même si le monde est compliqué apparemment de la culture en ce moment. Mais bon.
On vous souhaite de sillonner la France, l'Europe et le monde.
Ouais.
Merci pour cette interview, Arthur. On arrive à la fin. Je rappelle que la Ferra Rock soutient la sortie de A Journey That Never Was, ton nouvel album, tout juste sorti sur le label français Born Bad Records. Au revoir,
Merci.
Arthur, et merci encore.
À plus. Ciao.
Salut. Braco, Gablé, Dead Letter, Johnny Carwash et autres têtes d'affiche sont à retrouver les 25 et 26 juillet prochains dans les Côtes d'Armor en Bretagne pour fêter les 20 ans du festival Chaussetong.
Situé près de la côte de Granit-Rose en Bretagne, donc entre Lannion et Saint-Brieuc, un festival fête ses 20 ans cette année, il s'appelle Chaussetong, et c'est un festival de musiques actuelles, en plein endroit assez touristique et pas forcément dédié à la base à ça, quoique depuis 20 ans, on sait que les musiques actuelles c'est important dans le Trégor, puisque c'est l'endroit où se situe ce festival Chaussetong. Ici c'est Goa. On va en parler avec Julien qui est président du festival et que je salue. Bonjour Julien.
Coucou Marcus.
Avec Elodie qui est chargée de communication, entre autres, à Chaussetong.
Bonjour.
Et avec Gwendal qui est responsable du bar, là encore, entre autres, à Chaussetong. Et le bar, c'est important en Bretagne.
Bonjour.
20 ans, je le disais, avec des musiques actuelles. Ça, c'est la véritable Paris, Julien. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez un petit pèlerinage que vous faites à Rennes, par exemple, au Transmusical, pour aller voir ce qui se chante et ce qui se fait en termes de musique actuelle. Et à partir de là, une programmation peut s'établir.
Je te remercie de souligner un peu tout ça. C'est vrai que c'est un peu notre identité qu'on a construit avec les années. On s'est même affranchi un peu de l'idée de tête d'affiche. On est vraiment là pour promouvoir des découvertes. Alors, découvertes, ça s'entend au niveau régional, national, international. T'as parlé des trans musicales, c'est une bonne chose pour nous. Un petit peu comme les trans, nous on essaye de surprendre les festivaliers, qu'ils se fassent séduire aussi par ce qui nous-mêmes nous a plu, et que petit à petit, entre la tête d'affiche entre guillemets, ça soit le festival.
Et c'est vrai que si on parle de certaines têtes d'affiche qui ont pu venir à Chausse-Téton tout au long de ces 20 dernières années, puisque c'est la 11e édition, vu que le festival a lieu tous les deux ans, on peut évoquer des gens comme Miossec, Rachita qui est venu aussi, Moriarty, ça c'est vraiment les noms peut-être les plus connus. Et puis d'autres groupes beaucoup moins connus, mais très Ferrarock pour le coup, comme Ititanita, qu'on connaît bien, sans les Ferrarock, des groupes qui nous venaient de très loin, puisqu'il y a eu Lalalar qui est venu, le groupe turc, entre autres. Ça aussi, c'est l'ADN, c'est-à-dire vraiment faire la surprise, faire la découverte de ces groupes qui sont des groupes très musiques actuelles, mais que vous amenez ici dans le Trégor.
Ouais, comme tu disais, alors c'est sûr que Miossec, Rachita, c'était à une période du festival où vraiment, là, pour le coup, on avait quand même des têtes d'affiches qu'on mettait en avant, mais c'était des têtes d'affiches coup de cœur pour nous aussi, évidemment. Rachita, Miossec, c'était 2010. Et à partir de l'édition suivante, 2019, vraiment, on s'est repositionné, comme disait Julien, sur des groupes un peu moins connus, mais des vrais coups de cœur. Donc, tu prenais l'exemple de Lalalar, c'est un groupe qu'on avait vu au Transmusical. C'est un bon exemple parce que c'est vraiment le genre de groupe sur lequel nous, en tant que programmateurs, on a un coup de cœur, qui sont des groupes de live aussi, et qu'on va être vraiment contente de faire découvrir au public après.
Et puis, il y a aussi une évolution de la musique que vous accompagnez. Il y a eu des grosses vagues entre l'électro, là, le rock garage, les choses un peu inclassables. Mais je pense à des groupes, alors c'était pas les Sons of Kemet, mais c'était qui ? Too Many Zoos, voilà, merci. Ça, c'est pareil, c'était quand même des sacrés coups de cœur. Comment vous avez réussi à convaincre ces artistes de les faire venir ici, au cœur du Trégor ?
C'est souvent assez simple, hein, c'est que nous tous, on prend le téléphone, on prend les mails, on appelle les boîtes. À la fois, on a des groupes en tournée, donc on essaie de construire des choses avec eux, voir si c'est possible. Pour Too Many Zoos, c'est ça, on peut pas faire venir des groupes des États-Unis spécialement, Antibalas aussi. On a parlé des trans musicales tout à l'heure, clairement, les groupes qui passent en décembre aux trans... Généralement, ils prévoient quand même d'être en Europe l'été suivant. Il y a des groupes qui viennent pour des one-shots quand c'est pour venir d'Angleterre ou d'Europe. Pour des raisons écologiques, on ne peut pas le faire trop abuser de ça non plus. Mais on peut le faire de temps en temps.
Tu parlais, Julien, de One Shot, j'ai un souvenir bien précis parce que pour avoir été dans pas mal d'éditions à titre personnel de Chausse-Téton, je pense à ce qui est arrivé avec Peter Kernel il y a quelques années de ça. Ça, c'était quand même c'était pour le coup un coup de cœur. Ils n'étaient même pas en tournée. Ils ont fait quand même Genève jusqu'au bout de la Bretagne dans la journée. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui attire les musiciens ici.
Bah là, il y a un truc sympa, c'est qu'on les a vus. Ce qui est marrant, c'est qu'on en avait parlé l'édition d'avant et puis on hésitait. L'édition d'après, on était complètement convaincu. Notre groupe programmation, il se passe des revirements, c'est toujours assez passionnant de voir les débats qu'on a. On va aller voir à Saint-Brieuc. Alors le groupe vivait une période compliquée à l'époque, comme il n'y avait pas de tournée de montée, c'était compliqué pour eux de venir de Genève. Et la semaine d'après, le tourneur a rappelé David en disant « Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Peter Kernel, mais a priori, ils sont chauds pour venir et tout. » Et donc, c'était trop cool. Là, pour le coup, c'est un peu les émotions qui parlent. Et puis, quand des choses comme ça peuvent se faire, c'était super.
C'est les émotions aussi qui guident évidemment cette programmation. Julien, il faisait allusion à Elodie. C'est collectif aussi, puisque c'est une association, c'est un festival comme ça de vrais passionnés de musique qui se intergénérationnel aussi, parce que tu parlais d'une génération plutôt années 50. Il y a des gens qui sont nés dans les années 60, 70, 80 maintenant, voire peut-être 90, voire à bien 2000, parce qu'on est quand même en 2025. C'est génial parce que tout ça, ça monte beaucoup du festival.
Oui, l'asso est assez intergénérationnel, effectivement, un petit peu tous les âges dans l'asso. Après, à la programmation, on est quatre, et effectivement, de différentes générations, mais peut-être moins, moins large que dans l'asso quand même. On discute beaucoup, quoi. Dans la commission proc, c'est vrai, on parle pas mal. On se bat pas trop, parce que bon, quand même, on arrive à se retrouver sur des groupes qu'on aime beaucoup tous les quatre. Je pense qu'il y a une forme d'exigence, en fait, de notre part, sur l'ensemble de la programmation. Justement, ce choix qu'on a fait de pas avoir de tête d'affiche, on va chercher vraiment des coups de cœur, des groupes qui sont bons en live. La plupart des groupes, on arrive à aller les voir en concert, c'est pas toujours possible, mais quand c'est pas possible, on va aller voir des vidéos et quand même s'assurer qu'on a des groupes qui tiennent vraiment la route en live, parce que c'est vraiment ça l'idée. Et en fait, voilà, c'est ce truc d'avoir ce niveau d'exigence finalement sur l'ensemble de la programmation et d'avoir une sorte de programmation cohérente, en plus avec différents styles. Alors c'est, l'équilibre est hyper subtil, mais il faut que quelque part il y ait à la fois différents styles dans lesquels le public vont se retrouver et qu'il y ait une forme de cohérence qui sort de la soirée. Donc c'est toujours un petit peu un travail un peu d'équilibriste, mais bon, après nous c'est chouette à faire, hein, nous on adore ça.
Depuis pas mal d'années, vous faites attention aux musiciennes, vous n'avez pas attendu que ce soit un peu le mouvement qui soit actuellement en cours pour le faire. Il y a souvent eu des artistes féminines à venir se produire. Aujourd'hui c'est un petit peu le cas, là vous avez encore mis un point d'honneur à avoir pas mal d'artistes féminines.
On n'a pas attendu cette tendance-là pour programmer des artistes féminines. On a, il y a quelques années, Irène Dresel qui est venue, Romane Santarelli. C'est quelque chose... évidemment, on y fait attention depuis longtemps, mais je dirais qu'on y fait de plus en plus attention. Parce que c'est pas si facile que ça d'équilibrer des programmations. Ça reflète vraiment la réalité du monde de la musique, des musiques actuelles. Nous, en bout de chaîne, quelque part, quand on est programmateur, c'est vraiment une sorte de lutte quotidienne, un peu, quoi. Parce que c'est vrai que il faut écouter, aller chercher un peu plus, écouter plus de groupes pour trouver des groupes avec des femmes. Et on est conscient que c'est important parce que quelque part nous on met les groupes sur scène et en fait c'est important de voir des femmes sur scène parce que sinon le modèle finit par se reproduire et on sait qu'on a notre rôle à jouer là-dessus.
Festival de bénévoles, c'est fait aussi avec des bénévoles. Et pour en parler, on va peut-être quand même interroger Gwendal, qui est responsable du bar, mais pas que. D'abord, ça fait combien de temps que tu fais ça, Gwendal ?
Je suis responsable bar depuis 2019. Avant, j'ai été festivalier. De fil en aiguille, j'ai réussi à intégrer l'équipe. Et c'est vraiment une ambiance super. Il y a une équipe de bénévoles qui est super. Au fil des années, il y a des fidèles qui bossent très bien, qui sont sérieux. C'est vrai que le bar, c'est quelque chose d'important pour un festival. Hein. Ça amène beaucoup.
Ce qui fait aussi la singularité de Chausse-Tétanque, c'est que c'est un festival, comme je le disais déjà, dans une petite commune du bord de mer en Bretagne, mais c'est aussi un festival que vous avez voulu, d'abord écologique, mais aussi avec une véritable implantation. C'est des chapiteaux, c'est des espaces aussi un peu plus ludiques. Il y a même eu quelques années comme ça où il y avait des jeux pour enfants, des choses comme ça. Ça se met intergénérationnel. C'est pas forcément des gens qui sont des spécialistes de musiques actuelles qui viennent au festival. C'est important, c'est vraiment voulu aussi pour que ça soit un festival familial et local, quoi.
Oui, c'est clair. C'est vrai qu'il y a eu, comme tu disais, il y a eu beaucoup de choses pour les enfants aussi, on avait fait un moment. C'est impressionnant, ouais, le nombre de tranches d'âge qu'on voit, c'est vraiment super.
Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu des DJing sur le bord de mer, les après-midi sont importants aussi, parce que le festival dure 2 ou 3 jours, cette année ça va être 2 jours, et on va donner la programmation juste après, mais c'est vrai qu'il faut rester, si possible, au camping, ou il faut rester pas très loin, à proximité, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Pour le coup, tout le bourg, tout le village se met au diapason du festival, et ça c'est vraiment quelque chose de remarquable. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose à faire, Julien, c'est-à-dire qu'il faut pas venir pour une soirée, il faut venir pour au moins les deux.
Notre définition un peu du festival, c'est plage l'après-midi et concert le soir. Le festival est à vol d'oiseau, à un petit kilomètre d'une belle plage. Et donc, comme c'est 2 soirs, alors on a du camping sur place, on a tout ça, c'est gratuit. On a le village qui vit vraiment autour du festival pendant tout le week-end. Il y a des petits restos en bas. Et donc, on essaie de faire de l'animation musicale le samedi après-midi. Donc, cette année, on est en train de monter un truc. Il y aura de la musique à partir de 15h le samedi. On essaie de créer des choses.
En tout cas, ce qui est important aussi à dire, et là je vais vous laisser un petit peu vous partager le rôle, si vous le voulez bien, Elodie et Julien, il y a une belle programmation, une belle affiche qu'on va peut-être pouvoir dévoiler tout de suite pour les auditeurs et auditrices de la Ferrarock.
Alors le vendredi, on a un groupe qui ferait partie des découvertes régionales qui s'appelle Mansion Cellar. On a un groupe anglais, donc qui est un peu un gros coup de cœur de la programmation, qui s'appelle Dead Letter, qui fait partie des découverte post-punk. Pour le coup, c'est un one-shot qui vient pour nous, donc on est vraiment content que ça puisse se faire. Chege, qui est aussi un groupe qui est pour nous très emblématique du son de Chausse-Tétanque. Et le 5e groupe du vendredi, c'est Braco, qu'on avait vu à Binic au Folk Blues. Voilà un petit peu ce que je peux dire du vendredi.
Le samedi, alors en fait, dans l'énergie, c'était pas forcément quelque chose d'hyper intentionnel à la base, mais on a 2 soirées avec des énergies quand même assez différentes. Le vendredi, c'est vrai qu'on a une sorte d'énergie un peu punk. Et donc, le samedi, c'est plus la fête d'anniversaire, quoi. On va démarrer avec un groupe qui s'appelle Johnny Carwash, trio, garage. Alors eux, ils disent garage pop cool. Ensuite, on continuera avec Gablé, qui a un côté bricolo-pop. On aura, alors là, encore un gros coup de cœur de la prog. C'est Arad Kilo, Mamani Keita, Mike Ladd, qui fait du jazz et de l'ethio-jazz. Et ensuite, on a les Naive New Beaters. C'est un peu le groupe d'anniversaire parce que il y a un côté hyper feel-good, festif. Et puis, ils ont des vrais tubes. Et ensuite, on clôturera avec Atom, un duo rennais à la base qui fait de l'électro.
Alors Trévoux-Tréguignec, ça se trouve, je le disais, sur la côte du Trégor, tout simplement, donc le plus beau pays de Bretagne, ça c'est moi qui le dis. Comment on fait, Gwendal, pour venir si on arrive de Rennes, Paris, comme ça, ou si on vient d'ailleurs, comment on fait pour venir jusqu'à Trévoux-Tréguignec? Le mieux c'est quoi? C'est venir en stop, en train, c'est comment?
Bah, libre à chacun de venir comme il veut. Si on peut covoiturer, c'est encore mieux. Si les gens, ils veulent venir, bah qu'ils viennent comme ils peuvent et comme ils veulent, et on sera content de les accueillir.
Chos et Tongs, ça s'écrit Chos avec un E à la fin, Tongs, T-O-N-G-S, .bzh.com, Bretagne. Et vous avez plus qu'à venir ici à Trévoux-Tréguignec parce que vous allez regretter de ne pas venir cet été si vous ne venez pas. Merci Julien.
Merci beaucoup Marcus.
Merci Hello.
Eh ben merci Marcus.
Et merci Gwendal.
Avec plaisir Marcus.
C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission de la radio Ferrarock. Cédric de Fréquence Mutine et Jordan de Radio Méga vous présentaient les deux albums soutenus par les radios de la Ferrarock. 7 par Miss France, sorti le 11 avril en autoproduction, ainsi que A Journey That Never Was par Arthur Satan, sorti le 4 avril via Born Bad Records. Et enfin, nous vous donnons rendez-vous les 25 et 26 juillet 2025 dans les Côtes d'Armor pour le festival Chostetong. Pour écouter cette émission et en savoir plus sur les artistes soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.